en séance. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
L'Europe est cette année l'un des principaux thèmes de travail de l'Académie des sciences morales et politiques placée sous la présidence de M. Michel Albert. Tous les lundis à 15h en salle des séances, un académicien ou une personnalité extérieure à l'Académie vient présenter une communication consacrée à ce thème. Le lundi 29 mars 2004, l'Académie avait invité le commissaire européen Pascal Lamy. M. Lamy présentait une communication intitulée « Les politiques communes et l'Europe dans la mondialisation », après quoi il était invité à répondre aux questions des membres de l'Académie. C'est cette séance de questions-réponses que je vous propose de suivre maintenant. Nous rejoignons tout de suite la salle des séances et une première question posée par M. Thierry de Montbrial.
Ma première question, c'est... Est-ce que tu peux être un petit peu plus explicite sur ce sujet de l'identité européenne ? Alors, deuxième point, les Européens, les citoyens européens, tu dis, veulent une Europe, je l'ai noté textuellement, solidaire, oui, et une Europe capable d'agir dans le monde. Moi, je ne suis pas si sûr de cela. Est-ce que les Européens, est-ce que les citoyens européens veulent une Europe capable d'agir dans le monde? Ça, il me semble plutôt que ça correspond au modèle dit français d'Europe puissance. Ça aussi, je crois que c'est un point qui mérite davantage de commentaires.
Merci, Thierry de Montbrial. Monsieur Zemb.
Deux questions, hein, monsieur le commissaire. La première, qu'est-ce que veut dire politique commune au pluriel, dans la mesure où, non seulement, il n'y a pas nécessairement unité entre ces politiques d'un pays à l'autre, mais même au sein d'un même pays, pour diverses raisons, entre ces différentes politiques, on le sait. Ma seconde question reprend et prolonge peut-être, en s'appuyant sur un exemple particulier, la question de Thierry de Montbrial. Vous savez que l'Allemagne de l'Ouest a dépensé 150 milliards en 12 ans, au bénéfice, pense-t-on, ça doit être vrai, de l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est est profondément déçue, les espoirs sont déçus, les promesses non tenues, et on a le sentiment que l'Allemagne de l'Est, qui était un peu le paradis du bloc soviétique, par rapport aux pays qui vont entrer maintenant, était encore un cas facile. Autrement dit, on peut prévoir, c'est le sens de ma question, on peut prévoir que l'élargissement avant l'approfondissement n'était pas du tout le terme d'une alternative, mais que c'était la condamnation de l'Europe. Je connais beaucoup de gens qui sont beaucoup moins européens de moi, qui étaient pour l'élargissement rapide, parce que c'était une garantie du non-approfondissement. Ce que je crains comme philosophe, c'est qu'ensuite, comme le sophisme est courant, lorsque l'Europe, dont vous avez dit les difficultés actuelles, se rendra compte que cet élargissement était prématuré et catastrophique, ils vont en dire, c'est donc que l'Europe en soi, y compris l'autre voie, était absolument stupide et utopique. Et je considère que l'approfondissement ne serait pas utopique. D'aucune manière, je suis absolument sidéré comme philosophe que maintenant on veuille signer une constitution simplement pour une raison de calendrier au lieu d'y réfléchir trois fois.
Merci, Monsieur Zemb. Monsieur Jean Cluzel.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, comme vos collègues, commissaires européens, en prenant vos fonctions, nous le savons, vous avez pris un engagement, celui d'être totalement indépendant vis-à-vis du gouvernement de votre pays, quelle qu'en soit la nuance. C'est donc en fonction de vos responsabilités européennes que je vous poserai deux questions qui me paraissent être au cœur de nombre des difficultés françaises dans le domaine de la culture. Alors, la première question, est-ce que, de votre point de vue, en fonction de vos responsabilités, si vous le voulez bien, la politique française, dite de l'exception culturelle, sert ou dessert la présence de notre culture en Europe et dans le monde, et tout particulièrement pour le cinéma et l'audiovisuel? Et la seconde question, comment expliquer que la France s'attache, quelle que soit la couleur du gouvernement depuis bien des années, s'attache dans les instances internationales à défendre le principe du vote à l'unanimité que vous avez critiqué, à mon avis, tout à fait justement il y a un instant, et dont vous avez décrit les dangereuses conséquences culturelles. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur Cluzel. Monsieur Yvon Gattaz.
Oui, Monsieur le Commissaire, vous avez survolé avec talent l'économie européenne vue à l'intérieur de l'économie mondiale. Nous vous en remercions. J'aurais voulu, comme mon confrère Jacques Dupaquier, prendre un aspect un peu réducteur, non pas sur l'agriculture que je connais mal, mais sur l'industrie. L'industrie n'a plus la cote. C'est passé. On a appris dans les bons livres de management que nous entrons peut-être dans une civilisation post-industrielle. J'entends dire, eh bien, demain, la Chine sera l'usine du monde, l'atelier du monde. Comme si c'était anodin. Que je sache, les grands pays, on dit encore que ce sont des pays industrialisés et pas encore des pays tertiarisés. Alors je reprends ce vieux poncif, vous me pardonnerez cette plaisanterie, les bas coûts de l'Asie sont des coûts bas pour l'Europe. Enfin, mais c'est vrai, en plus c'est vrai. Alors, simplement, une seule question, monsieur le commissaire, est-ce que vous pensez que l'Europe va réagir ou est-ce qu'elle va continuer à ficher une sereine résignation devant cette disparition progressive, mais semble-t-il irréversible aujourd'hui, de l'industrie manufacturière.
Merci, Monsieur Gattaz. Monsieur Bernard Bourgeois.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, vous avez défini le projet européen de façon globale comme celui d'une mondialisation maîtrisée. Alors, je ferai deux courtes remarques, Monsieur le Président. Maîtrise, deuxièmement, mondialisation. La maîtrise, oui. Quelle maîtrise? Mais quelle maîtrise? D'abord, il faut répondre à la question, pourquoi faire? Et il me semble, et vous avez d'ailleurs insisté sur ce thème, en soulignant ce qu'il avait de positif, en mettant en garde, et vous aviez raison, contre les déclarations d'intention, idéalisme vide, en disant que l'Europe, la méthode européenne, avait consisté essentiellement dans la création de moyens. J'entends bien. Mais enfin, si on n'a pas un but suffisamment précis, si on n'a pas un idéal suffisamment précis, comment peut-on choisir entre les moyens? Vous avez dit vouloir la paix, c'est un but, mais c'est un but qui est très commun, tant mieux. L'important, me semble-t-il, c'est de définir les voies de la paix. Il y a l'empire, il y a le droit. Est-ce que l'Europe a suffisamment défini ce que devait être pour elle les voies de la paix? La mondialisation, ça implique de la part de la volonté européenne une définition, une détermination de la place et du rôle de l'Europe au sein du monde. Je pense que la construction européenne devait répondre à deux genres de questions. L'une concernant l'Union, et il faut s'unir. L'autre concernant les rapports de l'Union avec le reste du monde. Et c'était bien nécessaire, ne serait-ce qu'en raison de ce fait que les parties prenantes de l'Europe ont toutes des solidarités, et qui sont diverses, avec d'autres continents et d'autres régions du monde, de telle sorte qu'on peut d'ailleurs se demander si l'unité et l'unification de l'Europe est possible sans que l'Europe contribue d'emblée à une unification du monde. Or, ces deux questions s'unir, mais si on s'en tient à celle-ci, c'est du simple formalisme. Deuxièmement, par rapport aux autres et dans quel rapport, si vous voulez, vis-à-vis des autres. Ces deux questions qui doivent être traitées simultanément. On ne s'unit que dans une cause qui nous met en rapport avec ce qui est extérieur à soi. Les Grecs se sont unis à travers la guerre de Troie. Or, il me semble, monsieur le commissaire, mais sans doute suis-je ignorant, et j'ai été insuffisamment attentif, il me semble que pendant un long temps, les Européens se sont contentés de répondre à la première question sans répondre simultanément à la seconde question. De telle sorte que je m'interroge sur la réalité de la coupure que vous avez souligné et que vous situez aux alentours de 1990, avant il y avait un projet européen et après Il n'y en a plus. Je me demande si les difficultés actuelles qui ont rappelé à l'Europe que sa construction commune ne pouvait pas faire abstraction dans ses différentes étapes du traitement du problème, si vous voulez, de son rapport avec le reste du monde, les États-Unis, etc. Alors, je me demande si les difficultés actuelles ne font pas que rendre manifeste l'absence originelle d'un projet européen suffisamment total, et ça implique d'abord une vision claire des buts, un projet suffisamment total et suffisamment défini. D'où mon relatif scepticisme à l'endroit de l'avenir de l'Europe.
Merci, M. Bourgeois. Jacques Delarosière.
Premier paradoxe qui me frappe, plus l'Europe est allée de l'avant en matière monétaire, et elle est allée à l'extrême de l'avant, puisqu'elle a une monnaie commune, moins la volonté politique de gérer de manière cohérente la politique macroéconomique me semble exister. Avant l'euro, il y avait des crises financières, on avait des dévaluations, on était donc poussé à faire de la meilleure politique économique. Et en fait, ce sont les crises financières qui ont été les grandes génératrices de la convergence. Maintenant, l'euro tend à euphoriser les situations, les sanctions financières à l'égard des États qui dérivent par rapport au pacte de stabilité sont faibles, la pression des pairs fonctionne mal, il faut donc plus de gouvernement politique. Et ma deuxième remarque, qui est aussi une remarque qui met en lumière un paradoxe, c'est que dans cette dérive que j'indique par rapport à ce que serait une politique macroéconomique cohérente, c'est la France et l'Allemagne, c'est-à-dire ce fameux couple qui a toujours fait l'Europe, qui est le plus grand auteur de la dérive. Ce n'est pas vrai pour beaucoup de petits pays qui gèrent leur situation budgétaire d'une manière très cohérente avec le pacte de stabilité et de croissance. Ce n'est pas vrai non plus de la Grande-Bretagne, dont on dit qu'elle est d'une certaine manière une ennemie de l'Europe intégrée et qui cependant se comporte beaucoup mieux du point de vue de la, je dirais, de la vie de tous les jours. Alors je voulais offrir ces deux paradoxes à la sagacité de notre commissaire.
Merci, monsieur Delarosière. Monsieur Henri Amouroux.
Monsieur le commissaire, vous avez la durée, l'expérience. Pourriez-vous nous dire quel est, d'après vous, le pays ou les pays qui sont les mieux européens, sur la durée, bien entendu, et quelle est la place, dans cette hiérarchie, quelle est la place de la France? Quelles sont les réformes qu'on ne peut pas faire, quels que soient les changements sur l'échiquier politique?
Merci, monsieur Amouroux. Eh bien, cher Pascal Lamy, votre capacité de synthèse est bien connue. Montrez-nous qu'elle n'a jamais été aussi forte que cet après-midi.
Merci. Je vais prendre les questions les unes après les autres, car elles ne se recoupent que très peu, ce dont je vous remercie. Alors, d'abord, à monsieur Bonnefous, qui me dit « tout ça, c'est bien joli, mais où est la majorité qui va faire avancer ce char dont j'essaie d'expliquer qu'il est en ce moment un peu embourbé ?» Alors, d'abord, on a déjà connu des périodes où le char était un peu embourbé. Il y a eu, sur ces 50 dernières années, des hauts et des bas. Il y a eu des bons moments, il y a eu des mauvais moments. Je crois qu'on n'est pas dans un très bon moment, mais l'expérience prouve que c'est déjà arrivé et qu'on en est sorti. Et comment en est-on sorti? Généralement, quand, si je puis dire, l'énergie politique du système, ce qu'il faut comme énergie politique pour faire avancer l'Europe... Et il faut de l'énergie politique pour faire avancer l'Europe, car nos systèmes nationaux ont une très grande inertie, y compris dans des domaines où ils veulent faire les choses ensemble. Donc il faut faire remonter le niveau d'énergie politique. Je crois qu'une des conditions expérimentales, si je puis dire, c'est qu'il nous faut un peu plus de croissance. Si vous prenez les 50 dernières années, il y a une corrélation très frappante entre le taux de croissance et les progrès de la construction européenne. Comme si, pour faire du compromis, il fallait de l'huile, et que l'huile du compromis, c'était la croissance, ce que d'ailleurs, je crois, nous savons d'expérience dans nos systèmes nationaux. Donc je crois qu'il faut être lucide sur les difficultés, et il faut se donner petit à petit les moyens de remonter, si je puis dire, notre énergie. Et ça, c'est une affaire largement politique. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est de temps en temps utile de déchirer un peu le voile en disant, au fond, ça ne va pas bien, et si ça continue comme ça, on va avoir un problème. Je crois que nous sommes confrontés à un problème de volonté et d'énergie politique. Il y a eu d'autres moments, et il y en aura sans doute d'autres, où notamment nos leaders politiques, et je me situe au-dessus de la mêlée dans cette affirmation, où nos leaders politiques penseront un peu plus à l'avenir, et l'Europe, c'est pour eux, en général, de l'avenir. Monsieur d'Espagne a fait une remarque de bon sens que dont nous avons tous fait l'expérience. Le monde médiatique est ainsi fait que les consommateurs de médias consomment de l'événement et une espèce de concurrence de ce qu'on appelait dans le temps les attroupements. On cherche les attroupements. Et les chiens écrasés font plus d'attroupements que bien des sujets beaucoup plus importants pour nous tous. Et s'il fait cette expérience, je la fais de temps en temps et sur divers continents, je dois à l'honnêteté de dire qu'il y a quelques systèmes qui ne participent pas de cette inclination à l'événementiel dramatique ou violent, et c'est nos confrères et nos amis de la BBC en Angleterre, hein, qui, à mon avis, de ce point de vue-là, représentent encore un modèle qu'on pourrait éventuellement s'inspirer, même si c'est un système qui a des coordonnées très particulières. Mais j'en suis d'accord avec vous, lui, et tout responsable politique aujourd'hui a fait cette expérience. Il faut, je crois, accepter de sortir au moins une partie du paysage audiovisuel au financement par la publicité qui crée effectivement une culture d'attroupement. Monsieur Dupaquier me pose la question des subventions à l'exportation en matière agricole. Alors pourquoi est-ce qu'on avait des subventions à l'exportation en matière agricole ? Et pourquoi est-ce qu'on en a encore un peu ? Et je vais revenir sur le chiffre pour répondre précisément à sa question. Parce que la politique agricole européenne des origines a été fondée sur la notion d'autosuffisance et d'insularisation, en quelque sorte, de l'économie agricole européenne par rapport au reste du monde. Hein, on voulait produire pour nous, parce qu'on sortait de périodes où ceci avait été un problème, et donc on a fait ce qu'il fallait pour produire pour nous, c'est-à-dire qu'on a fait monter les prix, du coup on a produit, on a isolé ce système avec des hautes barrières douanières à l'entrée, et avec des écluses de subventions à l'exportation à la sortie. Et petit à petit, c'est produit ce qui devait se produire, c'est-à-dire qu'à force de faire monter les prix, on a surproduit, comme c'était des prix administrés et décidés après des nuits de négociations par des ministres dûment mandatés à cet effet, on a surproduit et du coup on a été obligé de rebasculer sur les marchés mondiaux une grande partie de ce qu'on ne consommait pas en matière de beurre, de lait, de viande et de céréales, d'où la nécessité de subventions à l'exportation compte tenu de la différence de prix entre nos prix intérieurs et les cours du marché mondial, qui ne sont d'ailleurs pas toujours des prix corrects au sens économique du terme. Et ça a duré pendant un bon moment, jusqu'à un moment où, disons, nos subventions à exportation étaient de l'ordre de, quelque part, entre 10 et 15 milliards d'euros par an. Dieu merci, on a réagi, et avec trois réformes de la politique agricole commune, une en 92, une en 99 et une l'année dernière, et Dieu sait qu'elles ont été poussives politiquement pour chacune des trois, nous avons réduit ces subventions à l'exportation à quelque chose de l'ordre de 2 à 3 milliards d'euros aujourd'hui, c'est-à-dire un cinquième de ce qu'on avait il y a encore une quinzaine d'années. Et nous l'avons fait parce que nous avons changé la philosophie de notre politique agricole commune, non pas en supprimant les soutiens, mais en changeant les modalités de ces soutiens, puisqu'on soutient par les revenus et plus par les prix, en quelque sorte. Et du coup, on a pu baisser nos prix internes, qui se retrouvent plus proches des niveaux mondiaux. On a compensé cela, et je passe sur la manière dont on l'a fait, car ça n'a pas toujours été parfait, on a compensé ces baisses de prix par des aides aux revenus, Et du coup, il nous reste encore des subventions à exportation là où notre système n'est pas encore, si je puis dire, réformé, ou réformé assez. Et nous versons ces subventions à exportation dans trois domaines. Le premier, c'est le sucre, le deuxième, c'est la viande, et le troisième, c'est le lait. Et les réformes que nous avons adoptées l'an dernier nous permettent, à terme, et il reste encore à discuter ce terme au sein de la négociation commerciale internationale, de supprimer ces subventions à l'exportation, même si, pour des raisons tactiques, notre position officielle est que nous le sommes prêts à le faire pour les produits des pays en voie de développement, que sont d'ailleurs, en l'occurrence, le sucre, le lait et la viande. Donc c'est quelque chose qui est en voie, si je puis dire, de disparition historique. Reste à en négocier correctement le prix, parce que négocier quelque chose qui disparaît, ça vaut pas cher, d'où une certaine propension de ma part à ne pas forcément dire publiquement que c'est prêt à disparaître rapidement. Aux questions de Thierry de Montbrial sur l'identité européenne, vaste question, sans entrer dans des détails de philosophie qui ne sont pas de mes compétences, l'identité, c'est deux choses. Hein. C'est le regard que je porte sur ce que je suis, et puis c'est aussi le regard que portent les autres. Hein. Il y a deux faces à l'identité. Et moi, il se trouve que je passe plus de la moitié de mon temps sur d'autres continents que le continent européen, par nécessité professionnelle, et que je peux vous dire que, vu d'ailleurs qu'en Europe, l'identité européenne, elle est assez claire. Entre nous-mêmes, nous passons beaucoup de temps à essayer de nous définir et de voir si vraiment on a une identité européenne, mais demander à quelqu'un qui vit en Amérique latine, un intellectuel africain ou un intellectuel asiatique, ce que c'est que l'identité européenne, il va vous donner une esquisse de ce que c'est que l'identité européenne. Il va vous dire, oui, c'est un endroit spécial, où oui, il y a une économie de marché, mais il y a aussi certaines influences des collectivités publiques, et puis il y a quand même des partenaires sociaux, et puis tout ça, d'accord, c'est un peu lourd, c'est un peu lent, mais quand même, la qualité, c'est bien, vous êtes un peu plus qualitatif que quantitatif. Bon, donc je n'insiste pas trop, parce que ce serait très compliqué, mais il y a, par différence, si je puis dire, et en tout cas, les autres nous prêtent un certain nombre de ces traits, qui, il est vrai, ne sont pas assez apparents à l'intérieur pour effectivement faire un substrat dans bien des domaines. Mais regardez ce qui s'est passé au moment des attentats de Madrid. Regardez à quel point c'est quelque chose qui a frappé en dehors d'Espagne tous les pays européens. Hein ? Et ça, c'est évidemment quelque chose qui ne se serait pas produit il y a 50 ans. Ça a été un choc qui a été ressenti très profondément dans les opinions publiques. Donc l'identité intellectuelle, elle n'est peut-être pas encore tout à fait bien définie, et je ne sais pas si tout le monde serait d'accord pour la définir de manière très rigoureuse, mais en tout cas, il y a une espèce d'identité charnelle aussi qui existe, et je crois que c'est important. Sur l'Europe capable d'agir, c'est vrai qu'il y a, disons, il y a une nuance entre l'Europe puissance telle qu'on aime en parler à Paris et l'Europe influence telle qu'on en parle plus volontiers ailleurs. Bon. Mais quand il s'agit de savoir s'il serait bon que l'Europe pèse pour faire ratifier le protocole de Kyoto, tout le monde est d'accord. Sur la Cour pénale internationale, tout le monde est d'accord. Et on aurait bien aimé, dans ces cas-là, peser davantage, ne serait-ce que pour éviter des trous dans le système. Alors, c'est vrai qu'en matière de défense et en matière militaire, les choses sont un peu différentes, mais il faut quand même admettre qu'il y a certains États membres de l'Union dont on comprend qu'ils manquent d'ambition militaire. C'est pas comme l'environnement ou le droit. C'est quelque chose dans lequel certains de nos États membres ont depuis longtemps, en quelque sorte, perdu le sens de ce que ceci signifie, se sont protégés sous un parapluie ou sous un autre, en payant d'ailleurs une cotisation extrêmement modeste, et d'autant plus modeste que les contribuables américains en ont payé l'essentiel pendant longtemps. Donc ça, c'est une question qui reviendra, qui revient, Hein, aujourd'hui, les forces qui opèrent sous commandement européen, il y en a quelques-unes en Afghanistan, en Bosnie, au Kosovo. On sent bien qu'on n'en a pas assez. Et ça va revenir sur le tapis, et ce sera à ce moment-là une question de gros sous, étant entendu que je crois que personne ne contestera que le Luxembourg, le Portugal, la Belgique ou l'Irlande ne soient pas forcément de cette partie-là de l'organisation européenne dans son cœur. Sur la croissance et sur les réformes, un sujet auquel j'ai un peu réfléchi ce week-end, pour des raisons évidentes, dont je dois parler dans une émission de télé ce soir, et j'ai cherché, et je fais ça en très bref pour vous, j'ai cherché à voir en Europe quelles sont les réformes, au fond, sur les 30 dernières années, quelles sont celles qui ont marché et quelles sont celles qui n'ont pas marché, et comment, au fond, s'explique la différence. Trois exemples de réformes qui ont marché, en reculant dans le temps, la réforme des retraites en Suède, les restructurations industrielles dans le tissu espagnol dans les années 90 et la désinflation en France. Et puis trois qui marchent pas ou qui ont marché mal, la réforme du système d'indemnisation du chômage en Allemagne, la récente, là. La réforme de la taxe de l'habitation à la fin de la période Thatcher, qui a été aussi une grande réforme ratée, à tel point d'ailleurs que ça lui a coûté sa vie politique, si je puis dire. Donc si on essaie de faire la différence, et j'ai encore une fois là, j'essaie de me situer au-delà de la mêlée politique, qu'est-ce qui fait la différence entre celles qui ont marché et celles qui n'ont pas marché? C'est d'abord, je crois, le temps de l'explication, qui est très long et qu'il faut savoir prendre. Ensuite, c'est la capacité et la volonté de rechercher des consensus. Pour prendre l'exemple de la Suède, ils se sont au bout d'un moment aperçus qu'ils ne feraient pas la réforme des retraites s'il n'y avait pas un accord bipartisan dans les forces politiques suédoises majoritaires qui sont la social-démocratie et la démocratie chrétienne sous forme du parti conservateur. Je crois que quand on a fait la désinflation en France, et j'ai quelques raisons de m'en souvenir, Michel Albert l'a rappelé tout à l'heure, on n'y est parvenu que lorsqu'il y a eu un consensus finalement fort, droite-gauche, syndicats, patronat, sur sa nécessité. Et puis je crois qu'il faut aussi, des contreparties, et que plus le temps passe, plus c'est vrai que ça devient difficile, plus au fond tout le monde est pour les réformes, sauf quand il faut payer de sa poche. Et qu'à ce moment-là, le sentiment que tout ça est fait de manière équitable et qu'on donne et on prend, en quelque sorte. Donc je crois qu'il y a un modèle européen de la réforme qui n'est pas le modèle américain, effectivement, et qui correspond un peu à notre propre manière de faire les choses. Alors je sais que c'est un peu rénant, je ne dis pas ça pour, encore une fois, pour faire plaisir à Michel Albert, je sais que c'est un peu rénant comme concept, mais je pense que ça perdure. Monsieur Tabatoni a raison de constater que Mario Monti et moi-même parlons au nom de l'Europe dans nos domaines respectifs. C'est tout simplement parce que c'est des domaines qu'on a complètement fédéralisés. On a mis tous nos œufs dans le panier européen en matière de politique de la concurrence et en matière de politique commerciale. Ça n'est pas le cas, et j'y reviendrai, mais il en a dit un mot, ça n'est pas le cas pour l'euro. Où il subsiste dans le système, disons-le tout de suite en répondant à la question de Jacques de La Roudière, il subsiste dans le système une asymétrie de gouvernance qui explique une grande partie de nos problèmes. C'est-à-dire qu'on a effectivement une banque centrale qui a une politique monétaire unique, mais on n'a pas en face un interlocuteur de politique économique, je ne dis même pas unique, mais vraiment commune. Et cette asymétrie, elle n'est pas durable. Jacques de La Rosière a raison. On a retiré, en quelque sorte, le gendarme du système en protégeant tout le monde derrière ce grand et gros parapluie qu'est l'euro. On l'a remplacé par personne d'autre. Et donc, nos États ont un peu tendance à en prendre à leur aise, au détriment, si je puis dire, de la valeur de la copropriété qu'est l'euro. Sur la conception, Monsieur Tabatoni, sur le fait qu'il y ait une conception plus intégrée qu'une autre, c'est vrai. Est-ce qu'elle est anglaise contre le reste ? Parfois, oui. Mais je crois que dans ce domaine, si vous voulez, c'est la mondialisation qui va remettre les pendules à l'heure. C'est la nécessité de faire des choix dans ces domaines. Et je crois que dans beaucoup de ces domaines, les Anglais, même s'ils ont une culture politique insulaire, hein, viendront à la convergence. Hein. Le chancelier Kohl, que j'ai pas mal pratiqué du temps où je travaillais avec Delors, disait « Le chemin des Anglais à l'Europe sera toujours un peu plus long que celui des autres ». Je crois que c'est vrai, mais je crois que c'est le chemin. Sur l'OMC, Monsieur Tabatoni, c'est vrai que les choses sont difficiles dans une organisation qui comporte 150 membres et quand il s'agit de discuter 20 sujets à la fois. Le nombre de complications et de complexités et de combinaisons tactiques est énorme. Je ne pense pas que ce soit impossible. J'espère que nous parviendrons cette année à avancer là où nous aurions dû avancer l'année dernière, à Cancun. Pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Encore une fois, parce que l'OMC n'est pas vraiment très bien organisé. Et deuxièmement, parce que les règles que nous négocions à l'OMC sont des règles en dur. C'est pas des conférences diplomatiques où on se met d'accord sur des communiqués et puis après on passe à autre chose. Ce sont des règles en dur qui ont des conséquences juridiques directes sur la vie de millions et maintenant de milliards de gens et qui sont tellement dures que quand on les respecte pas, on encourt des sanctions, ce qui est rare dans le système international. Donc le fait que les règles soient en dur les rend en quelque sorte plus difficiles à négocier parce que les gens font très très attention à ce à quoi ils s'engagent et ils le font d'autant plus que... ils sont en général, et pour beaucoup d'entre eux, et c'est le cas des deux tiers des membres de l'OMC, des pays en développement. La nouveauté dans les pays en développement, c'est qu'en quelque sorte, nous avons maintenant, je crois, je dis même j'espère, durablement deux camps dans les pays en voie de développement, c'est-à-dire le camp des pays émergents, type Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud, et puis le camp des pays les plus pauvres, qui en gros regroupent l'Afrique et les pays les moins avancés, et que... Si on arrivait à l'OMC, et d'ailleurs peut-être ailleurs, à un jeu à quatre coins, dans lesquels vous avez les États-Unis, l'Europe, ces pays émergents et les pays qui sont maintenant les vrais pays du tiers-monde, je pense que le jeu en serait simplifié. Monsieur Zembe rejoint une question que m'avait posée Thierry de Mondrial sur l'élargissement. Est-ce que cet élargissement est prématuré et fatal ? Alors je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il soit prématuré, je ne crois pas qu'il soit fatal, même si j'ai été de ceux à l'époque qui ont plaidé pour qu'on décide simultanément de l'élargissement et de l'approfondissement en vain. Mais il n'est pas prématuré. Si vous regardez ce qu'est le fond du projet européen, si vous regardez le traité de Rome, le fond du projet européen, c'est l'unification du continent européen. On n'a jamais fait un aussi grand pas d'un coup dans l'unification du continent européen qu'avec cet élargissement. Donc nous sommes vraiment fidèles à ce pourquoi la construction européenne a été initiée. Et je crois que cette dimension historique, qui manque évidemment beaucoup dans les médias et dans la manière dont tout ça est présenté, cette espèce de profondeur, elle est indispensable. Je ne crois pas qu'il soit fatal, pour peu qu'on en tire un certain nombre de conséquences. Économiquement, c'est quand même pas la mer à boire. Hein. Nous rajoutons... le 1er mai à l'Union européenne 5% du produit national brut de l'Union européenne d'aujourd'hui. Hein, enfin, quelque part entre 5 et 10%, c'est la manière dont on calcule les parités de change. Ça n'est pas la mer à boire. Ce sont des pays qui ont fait des efforts considérables. Bien sûr qu'ils n'en sont pas tout à fait là où en étaient l'Espagne et le Portugal quand ils sont entrés en 1985. Je crois que c'est jouable, tenable. C'est vrai que c'est beaucoup en nombre. On augmente nos États membres de deux tiers, c'est beaucoup, et ça a posé des problèmes compliqués. C'est pas mal en population, c'est 20%, mais disons sur le plan économique, c'est de la réserve de croissance, en quelque sorte, pourvu que nous fassions ce qu'il faut pour apaiser d'inévitables tensions sociales et régionales que leur continuation vers la voie d'une économie de marché comme l'économie européenne, va provoquer. Ceci étant, c'est pas un Big Bang. Ça fait 10 ans que ça se prépare. Ça fait 10 ans que nos échanges sont ouverts avec eux. Ils font maintenant 70% de leurs échanges avec l'Union européenne, alors qu'ils en faisaient 70% avec le Comecon dans les années 90. C'est un bouleversement énorme qui s'est fait, je trouve, de manière plutôt pacifique. Et la comparaison avec l'Allemagne de l'Est, je crois, ne vaut pas. L'Allemagne de l'Est a été arrimée à l'Allemagne de l'Ouest en deux coups de cuillère à peau, avec une décision considérable sur le plan politique qui était la parité de change entre un Deutschmark Est et un Deutschmark Ouest, et qui est évidemment tout économiste de moyenne culture économique vous aurait dit que c'était une imbécilité considérable. Bon, mais ça, c'est la politique. Quand l'histoire souffle, on ne convoque pas les économistes, surtout que ce n'était pas le style du chancelier qui était au volant à l'époque en Allemagne. Bon, c'est vrai que ça leur a coûté très cher, mais ça a été fait dans des conditions très, très, très différentes. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, une des raisons pour lesquelles il ne faut pas précipiter les 10 pays qui vont nous rejoindre dans l'euro trop vite, parce qu'ils ont besoin d'un certain nombre de flexibilités pour continuer à s'ajuster, dont celle de leur taux de change, à mon sens. Monsieur Cluzel, votre secrétaire perpétuel, d'abord rappelle mon serment d'indépendance, je le remercie. Je rappelle qu'en prêtant ce serment d'indépendance, j'ai aussi pris note du fait que les États membres avaient pris note de leur impossibilité d'adresser des instructions à leur commissaire. Et de temps en temps, les commissaires ne doivent pas oublier leur serment d'indépendance, mais je pense que de temps en temps, nos États membres doivent aussi rappeler cette partie-là du dispositif, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est parfois un peu compliqué à comprendre. Bon. Alors, sur l'exception culturelle, maintenant dénommée plus agréablement diversité culturelle, je crois que nous partageons un point de vue commun avec lui sur ce point, qu'il y a une vraie réalité dans la nécessité de préserver la diversité culturelle et qu'au fond, les effets de la division internationale du travail sur les industries culturelles, et notamment tout ce qui est audiovisuel, doivent être limités. Un peu comme sur l'agriculture, finalement, il y a des endroits où la division internationale du travail n'est pas la panacée, notamment quand vous ne pouvez pas faire d'économie d'échelle sur un marché qui ne sera jamais que de 50 millions, voire moins, pour un produit de langue française. Bon. Et c'est vrai que si vous mettez en concurrence des gens qui amortissent leurs produits sur 250 millions de consommateurs et ceux qui amortissent sur 50 millions de consommateurs, vous avez un problème qui explique d'ailleurs très largement le fait que les séries américaines aient pénétré aussi formidablement tous nos systèmes audiovisuels. Forcément, le coût marginal est faible. Monsieur Bourgeois, je suis d'accord avec vous. Il faut un but plus clair pour réunir l'énergie des moyens, si je puis dire. Je crois que si on porte le regard sur le passé, ce but clair, ça a été la paix continentale, jusqu'aux années 90, au fond. Hein, et que depuis, on cherche un relais, et mon relais à moi, mais il ne faut pas le dire comme ça, parce que ce n'est pas présentable comme ça aux opinions, mais mon relais, d'un certain point de vue, c'est de passer de la paix continentale à la paix universelle. C'est ça notre problème. Hein, le problème en matière d'environnement, de migration, de sida, etc., c'est un problème de conflit, de tension et d'un certain point de vue de paix universelle, comme disaient les philosophes au XVIIIe et au XIXe. Donc c'est ça le projet total. Et quand je dis maîtriser la mondialisation, c'est un peu à ça que je pense et c'est dans cet esprit que j'ai rédigé ce petit livre dont votre président a fait état tout à l'heure. Avec Jacques Delarosière, je crois que j'ai répondu sur le problème de l'asymétrie et de la nécessité d'un gouvernement de politique économique plus fort en Europe. Mais ça, c'est un purement politique. Hein, ça consiste à ce que les chefs, autour de la table du Conseil européen, fassent obéir leur ministre de l'économie et des finances. Hein, et moi, je considère que, en ne le faisant pas, ils perdent 0,5 point de croissance. Hein, et que ce demi-point de croissance, c'est uniquement quelque chose qui est entre les mains d'une décision purement politique, je préfère commencer par les fruits mûrs que par les fruits verts. C'est moins compliqué que de faire une réforme des retraites ou une réforme du marché du travail, ou de rééquilibrer un budget qu'on a bien besoin, que de prendre une décision politique qui consiste à dire on va vous enfermer pendant 24 heures, vous reviendrez avec un concept de politique économique commune. C'est quand même pas... Mais là, pour le coup, je trouve qu'on a affaire à un obstacle qui est d'ordre, je dirais, bureaucratique, pour prendre le langage de M. Crozier, au bon sens du terme, et que ça doit quand même pas être la mer à boire. Sur la France et l'Allemagne, c'est vrai que le fait que les deux poids lourds se soient, si je puis dire, simultanément assis sur le pacte de stabilité, a fait plier ce pacte, et que c'est un, de mon point de vue, un très mauvais précédent, parce que ça consiste à laisser à penser qu'il peut y avoir deux poids, deux mesures, ce qui est le début... du défilement ou du défilochage de l'Union européenne. Sur l'idée de M. Planté, tout à fait d'accord, nous y travaillons beaucoup.
C'était Jean Béchler, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, devant l'Académie le lundi 12 janvier dernier. L'Europe n'a jamais été un empire, c'était le thème de la communication de M. Béchler prononcée en salle des séances.
De gérer cela. C'est vrai que ça prend pas toujours les formes politiques les plus visibles, c'est vrai. À Monsieur Leroy-Ladurie, est-ce que les noyaux durs sont un bon concept ? Non, sauf dans la version franco-allemande, qui est à mon avis la seule disponible. Pour le reste, je crois que il faut plutôt se préoccuper d'organiser les arrière-gardes que les avant-gardes. Et que d'ailleurs, quand on regarde ce qu'on a fait avec l'euro ou avec Schengen sur la libre circulation des personnes, de fait, on a organisé des arrière-gardes. Et finalement, c'est plus commode, plus facile et plus opérationnel que de se creuser la tête éternellement sur comment on fait des avant-gardes. Et sur la recherche, est-ce qu'il y a un homme d'État européen ? Je prends ma lanterne de Job et je donnerai ma réponse dans un colloque singulier avec M. Leroy-Ladurie pour ne vexer personne. Michel Crozier, est-ce que la méthode de l'engrenage est encore la bonne ? Oui. Mais la méthode de l'engrenage, que Stanley Hoffman a parfaitement décrite, elle suppose que le volume d'énergie disponible croisse en même temps que le poids que vous constituez. Sinon, l'objet s'arrête. Et donc, il faut davantage d'énergie aujourd'hui qu'il n'en fallait il y a 10 ou 20 ans, ce qui est d'ailleurs, d'un certain point de vue, un signe de succès. Mais je crois que c'est faisable. Et d'ailleurs, depuis, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grands projets, mais prenez quelque chose comme le mandat d'arrêt européen, qui est quand même une grande traversée de ce que j'appelais tout à l'heure des frontières symboliques, qui a eu lieu, comme par hasard, après le 11 septembre. On a aussi quand même réussi à avancer dans ces domaines. Mais c'est plus lent et plus pénible, mais encore une fois, c'est un problème d'énergie. Enfin, M. Henri Amouroux qui me demande un tableau d'honneur, ça fait un moment, 10 ans, puis 5 ans, avec une interruption que je suis dans ces affaires européennes, je crois qu'il n'y a pas de modèle. Ça dépend des époques. Il y a des moments où il y a des bons élèves et des moins bons élèves. Il y a des moments où il y a des pays qui ont des idées. Il y a des moments où il y a des inspirations qui viennent de tel ou tel leader ou de tel ou tel dirigeant. Je crois que chacun, à son moment, a été bon ou moins bon. Est-ce qu'il y a des réformes qu'on ne peut pas faire ? Je ne crois pas. Je crois que c'est largement une affaire de positionnement politique et de méthode. Comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que nous devons... Qui doit décider quand on dit nous ? Oui, pour moi, ce sont les électeurs. Et c'est là qu'on a besoin d'un, quelque sorte, d'un démos européen, qu'on n'a pas pour l'instant, parce qu'on a tous les éléments, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce petit livre, on a tous les éléments pris chez Montesquieu de ce qu'il faut faire pour faire une démocratie. On a tout pris dans le livre, on a tout bon à la question de cours, mais les travaux pratiques, ça ne marche pas, quoi. Et là, on a vraiment un problème qu'il faut traiter et sur lequel je propose quelques solutions. Est-ce qu'il faudra tout unir ? Non. Il ne faut pas tout unir. La fiscalité des personnes n'a pas besoin d'être traitée au niveau européen. La fiscalité des entreprises, oui. La fiscalité des personnes, non. Les régimes de sécurité sociale n'ont pas besoin d'être traités au niveau européen. Les programmes d'éducation n'ont pas besoin d'être traités au niveau européen. Il y a des tas de choses qui restent de la compétence nationale et qui devront rester de la compétence nationale. Et si j'avais l'autorité, si je puis dire, de faire le ménage dans ce que l'Union européenne exerce aujourd'hui comme compétence, j'aurais tendance, personnellement, pour des raisons d'efficacité, à faire le ménage de printemps et à en retirer un certain nombre pour pouvoir me concentrer davantage sur moins de choses que nous devons faire ensemble. Bravo. Merci.
C'était la séance des questions-réponses consécutives à la communication du commissaire européen Pascal Lamy sur l'Europe dans la mondialisation. Pascal Lamy était, je vous le rappelle, l'invité de l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 29 mars 2004 au Palais de l'Institut de France. Vous pouvez retrouver l'intégralité de sa communication et de cette séance débat avec les académiciens sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous composez l'adresse suivante www.asmp.fr.
Vous écoutez Canal Académie.